Témoignages, échanges, discussions au réseau Cogeco. Voici Dan Bigra.
Bon, avec cet indicatif-là, je vais finir par me rappeler de mon nom. Merci beaucoup d'être avec nous à Montréal, en Outaouais, en Mauricie, au Saguenay et en Estrie. En deuxième heure, je vais vous demander, parce qu'on va parler de la DPJ, fait que je vais vous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants en détresse. Mais tout de suite, je vous demande, parce qu'on l'a eu hier vers une heure, on a eu enfin le plan pour la rentrée d'école de nos enfants. Je vous demande, êtes-vous satisfait du plan pour le rattrapage scolaire du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge? Alors, vous allez juste m'appeler, ça va me faire plaisir, j'ai hâte de vous parler, 514-790-9850 ou bien le 1-866-790-9850 si vous êtes hors de la région de Montréal. On est avec Sylvain Mallette, qui est président de la Fédération autonome d'enseignement. Bonjour, M. Mallette.
Bonjour, M. Bigra.
Écoutez, je vais aborder un premier angle qui me semble très important. On peut parler de sécurité et de tout ça. Je comprends que la COVID, c'est tout nouveau. Tout le monde essaie de s'adapter. Mais il y a une chose que j'ai toujours remarquée, c'est que l'école est le premier détecteur de détresse chez l'enfant. C'est l'école qui le remarque. Et après ça, peut se faire un suivi. Si c'est fait trop tard, il arrive ce qu'on appelle la ronde de lait, nous autres, c'est-à-dire école DPJ. Et puis les endroits comme le refuge après ça. Ça, c'est les enfants qu'on échappe et il y en a beaucoup. Est-ce que ça vous inquiète, cette façon, dans le plan du ministre Roberge, êtes-vous content de la façon dont on s'occupe des enfants qui sont peut-être plus en difficulté?
Ben, c'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, hein, les écoles, ce sont dans les écoles qu'on va observer des comportements, les drames que vivent certains de nos élèves. Malheureusement, la difficulté, c'est qu'on doit composer avec un manque de ressources, un manque de services, qui fait que on a beau détecter, remarquer, s'inquiéter. Tout le processus ensuite qui s'enclenche, il y a du sous-financement chronique depuis des années, ce qui fait que les services ne sont pas rendus lorsqu'ils devraient être rendus. C'est clair que nous, dès le printemps, on a interpellé le ministre en lui disant la période de flottement, la période de fermeture des écoles, ça va provoquer, particulièrement chez les élèves les plus vulnérables, des retards. Hein, ils vont accumuler davantage de retards, particulièrement les élèves plus vulnérables, ceux qui subissent les effets de la pauvreté, ceux qui sont issus de l'immigration, dont les parents ne parlent pas le français. Donc, il faut prévoir ce que nous, on a appelé une mise à niveau national. Et on aurait espéré qu'hier, le ministre fasse une annonce, profite de son annonce, pour venir nous dire, voici comment au Québec, on va rattraper le retard qu'on connaît, qu'on observe, les profs, là, les écoles dans lesquelles il y a eu un retour au printemps, les profs l'ont observé, puis pour les profs qui étaient en enseignement à distance, l'ont aussi observé auprès de certains de leurs élèves. Donc ça reste encore là, 3 semaines de la rentrée. Le ministre ne nous a pas informé de ce rattrapage-là.
Il y a quelque chose que je finis par trouver décourageant, c'est qu'on se fait répondre par nos politiques. Oui, mais on n'a pas d'argent. On fait juste regarder l'argent qu'on perd dans des paradis fiscaux, puis c'est fou. On n'est pas un pays pauvre. On pourrait très bien s'occuper de nos enfants. Est-ce que vous trouvez que... parce que moi, je trouve que la santé est rendue comme ça. Je me demande si c'est pas la même chose dans l'éducation. Est-ce que toute la machine gouvernementale et fonctionnariale et tout ça, est-ce que la machine n'est pas trop grosse? Je suis toujours inquiet. Plus c'est gros, plus on dirait qu'on est dans un sous-marin. Le capitaine donne un ordre en avant qui est répété 18 fois en arrière. Puis à un moment donné, il se rend pas en bas.
Ben, l'éducation, comme la santé, ce sont depuis quelques années, là, c'est considéré comme des biens de consommation. Hein. Puis il faut voir la loi sur l'instruction publique. Hein, on ne parle plus de population d'élèves, on parle de clientèle scolaire. Il y a donc un rapport d'affaires qui s'est installé depuis une vingtaine d'années où on parle de clients, les parents sont des clients, il faut satisfaire des clients, il faut rendre des services. Donc, à ça, cette idéologie-là qui existe depuis une vingtaine d'années, qui s'est répandue même dans la loi sur l'instruction publique, il y a des choix budgétaires qui ont été opérés. Il faut quand même se rappeler, il n'y a pas si longtemps, là, on sort à peine, on sortait là, de la période d'austérité qui a privé le réseau public 1,488 milliard de dollars. La pandémie frappe, hein, la COVID frappe, ça ajoute un niveau de difficulté. Puis la dernière réforme qu'a opéré le gouvernement en abolissant les élections scolaires, je peux affirmer, là, pour avoir vécu la grande réforme du milieu des années 90, là, où on nous disait qu'en fusionnant les commissions scolaires, on était pour ajouter des services aux élèves. Il n'y a pas un élève qui a vu la moindre minute de plus de service dans les écoles au milieu des années 90. Ben, ça va être la même chose avec l'abolition des commissions scolaires. Ce sont des méga structures qu'a créé le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation. En fait, en éducation, va se produire ce qui s'est produit en santé. Des grosses machines qui se parlent entre elles et qui répondent pas nécessairement aux besoins des élèves. Puis je le répète, particulièrement les élèves vulnérables.
Je crois que ça manque d'imputabilité à tous les niveaux. Il y a d'ailleurs un gros manque de logique. Ça frise l'escroquerie, je trouve, de dire « Ah ben, on coupe dans les commissions scolaires », mais c'est parce que ceux qui seront plus là pour faire l'ouvrage, ça va qui? Les profs vont le faire? Qui va faire ça? Ça prend du monde de toute façon. Ça va couper du temps, ça va couper de l'attention. Et le gros problème qu'on a au Québec, c'est avec des classes d'au-dessus de 30 élèves, le professeur n'a pas le droit de faire autre chose que de donner la matière. Et il n'y a pas le temps de ça. Il n'y a pas le temps physique, c'est pas de sa faute, là, de s'occuper des enfants qui vont mal. Puis il ne faut pas se tromper s'il ne voyait pas. Là, il peut en rater un de temps en temps. Il y a des enfants qui sont doués pour passer sous le filet, là. Mais je veux dire, en dehors de ça, lui, il le voit. Puis d'après moi, dans la détresse de nos professeurs, je parle beaucoup d'angoisse de compassion parce que je me suis fait dire à Louis H. avait été donné une petite conférence, puis tous les aidants comme ça, on parle des policiers, on parle des psychiatres, on parle des infirmières, on parle du personnel de soutien et des professeurs qui sont confrontés à des drames, ils voient des enfants se détériorer, peuvent pas intervenir, et si ça communique mal vers le bas, ça communique mal vers le haut aussi. Ils envoient des rapports, et puis les rapports sont pas pris en compte, les enfants ne vont pas mieux, ils ont pas plus de ressources. Est-ce qu'on peut pas prioriser ça à un moment donné avant de ramasser ces enfants-là plus tard dans la rue? Puis j'ai l'air de dramatiser. Trompez-vous pas, là. La moitié de notre, là, je vais être sarcastique un peu, la moitié de notre clientèle au refuge, ce sont des enfants de la DPJ.
Ah ben, tout à fait. Puis c'est, vous savez, l'école, c'est une société en taille réduite, hein, les inégalités, les combats, on les observe dans l'école. Et nous, on travaille beaucoup sur la question de la santé mentale au travail. Et ce qu'on observe, parce qu'on travaille avec des chercheurs de l'Université Laval, c'est qu'il y a à la fois le poids du trop et le poids du manque pour les profs. Il y a trop de contraintes, trop de consignes contradictoires, trop de paperasse à remplir et le manque de ressources, le manque de soutien, le manque de reconnaissance de l'expertise des profs. Puis vous savez, moi, je suis un prof du secondaire, là. Donc, quand l'année commence, là, donnez-moi 2 semaines, puis je vais être capable d'à peu près vous dire là, lesquels parmi mes élèves ont des difficultés ou avec lesquels je vais devoir travailler de façon particulière. Mais si j'ai pas les moyens par la suite d'aider ces élèves-là ou de les référer aux bonnes ressources, parce que comme prof, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, je suis pas travailleur social.
On est humain. Je parle aux jeunes. Moi, je suis pas intervenant au refuge, mais je parle aux jeunes pareil. On est humain.
C'est ça, puis j'ai mes propres limites aussi comme individu, mais si je suis pas capable dans le réseau dans lequel... puis il faut quand même se rappeler hein, qu'on s'est doté d'un réseau, les écoles publiques, c'était l'idée, avec la Révolution tranquille, de sortir de l'état de sous-scolarisation dans lequel le Québec se retrouvait, de sortir de la pauvreté, de permettre aux individus de se réaliser comme citoyennes, citoyens. Et il faut constater l'état dans lequel on trouve le réseau, où on est en présence parfois de politiciens qui imaginent des systèmes dans des systèmes, des structures par-dessus des structures, puis on oublie que ces systèmes-là sont composés d'êtres humains avec leurs forces, leurs faiblesses. Et moi, je pense particulièrement, je me répète, mais aux enfants vulnérables, il y en a partout au Québec des élèves vulnérables. Puis, vous savez, si on échappe un élève dans le réseau scolaire, les effets de ce cet événement-là va se traduire tout au long de la vie de cette personne-là, de cet individu-là.
Et pas seulement de cette personne-là, c'est comme lâcher une pierre dans l'eau, le cercle va s'agrandir.
Tout à fait. Et tout autour de cette personne-là, sa famille, ses affiches, entre autres, on a travaillé sur le décrochage scolaire des filles, parce que c'est un phénomène dont on parle peu.
C'est
puis on
vrai.
S'est rendu compte avec Relais Femmes que le décrochage scolaire des filles a des effets, parce que c'est dramatique autant pour les garçons que pour les filles, mais les filles vont se retrouver davantage dans des métiers encore moins bien rémunérés, des horaires coupés. Elles doivent composer souvent avec la maternité en bas âge. Elles sont chefs de famille monoparentales. Donc, ce sont des phénomènes sociaux qu'on observe dans les écoles et les politiciens réagissent souvent à les effets d'annonce. Il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité, donc on répond là, mais il faut imaginer le système de façon intégrée. Puis je le répète, c'est pas avec
juste
la dernière
ça, à long
réforme.
Terme. À long terme, on à répond pas terme. Juste quand il y a une crise.
Ben, puis à quoi on veut que l'école publique serve? Puis là, ça pose la question du financement public des écoles privées, qui sont des écoles qui choisissent leurs élèves, qui en éjectent en cours d'année, et donc, et qui profitent, là, qui sont subventionnés à hauteur de 70%, alors que l'école publique doit accueillir tous les élèves sans discrimination, et cependant, elle n'a pas les moyens d'offrir tous les services que la loi sur l'institution publique lui impose de rendre. Et ça aussi, c'est une question fondamentale.
Je pense qu'à partir du moment où on traite les enfants de clientèle, excusez-moi, je fais un raccourci, mais il me semble très, 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 très pertinent, de clientèle et leurs parents de clientèle, faut pas s'étonner tout le long du cursus scolaire à ce moment-là les inégalités se répètent à l'école, vous venez de le dire. Je suis complètement d'accord avec vous. Et donc, à ce moment-là, on a l'impression qu'on arrive au secondaire 5. Et là, les enfants d'ouvriers, eux autres, c'est fini. Parce qu'après ça, l'éducation va commencer à coûter de plus en plus cher à l'université. Et puis, un ouvrier qui a 5 enfants ne peut pas se le permettre. Par contre, ceux qui sont déjà bien placés, qui font des sous, vont placer leurs enfants, qui vont avoir des postes beaucoup plus avantageux plus tard. Donc, il y a déjà une discrimination à ce niveau-là qui se répercute. On est un peu hors sujet, mais quand même pas tout à fait, qui se répercute jusqu'à tard dans la vie et qui perpétue une inégalité. Si on traite les enfants de clientèle, faut pas être surpris que ça se passe comme ça, là.
Ben, puis je pense que la pandémie, elle a frappé l'ensemble du Québec. On le sait, il y a encore des Québécois, des Québécoises qui se retrouvent dans des situations financières très difficiles. Mais la pandémie, elle a frappé durement les écoles publiques. Puis faut le dire.
Mais tout le monde, elle a frappé tout le monde là-dessus.
Tout le monde et encore plus durement les écoles publiques. Puis vous savez, il y a quelqu'un qui a déjà dit « tout est dans tout ». On peut pas séparer les effets de cette pandémie-là à long terme parce qu'il va falloir les observer, là. Il va falloir se poser des questions, savoir quels sont les effets de cette pandémie-là sur les élèves, tous les élèves, particulièrement les élèves vulnérables, puis ensuite, quels moyens on met en place, quelles ressources on accorde au réseau public pour faire face à moyen et à long terme à ces difficultés-là. Puis moi, cependant, je verse pas, là, parce qu'au printemps, on a entendu certains commentateurs laisser croire là, que les élèves, les enfants québécois avaient entrepris un processus de déscolarisation. C'est faux, parce que les phénomènes de déscolarisation, on va les observer dans des pays où il y a des guerres civiles, des déplacements massifs de population, ce qui n'était pas le cas au Québec. Cependant, faut rester vigilant. Faut aussi reconnaître que les gens sur le terrain, puis je parle pas juste des profs, je parle des personnels de soutien, des personnels professionnels, mais aussi des profs, quand on observe des phénomènes, des comportements, des situations difficiles, il faut que le réseau soit capable rapidement d'identifier les ressources et de les rendre disponibles. Parce que c'est pas juste d'annoncer des sommes, il faut ensuite que les ressources sur le terrain soient présentes quand les enfants en ont besoin. Pas quand le réseau est prêt à les livrer, ces services-là, quand les enfants en ont besoin.
Oui, et j'ai pas entendu M. Robert en parler. En tout cas, je suis peut-être malchanceux. J'ouvre la TV toujours au mauvais moment. J'entends pas les annonces importantes. Moi, je pense que je suis mal bloqué. Écoutez, je dois prendre une pause, M. Mallette, mais je vous garde avec moi. C'est très, très, très intéressant.
Parfait.
Et puis, au retour, moi, je vais prendre des appels du public. Comme je vous dis, j'aime beaucoup quand on m'appelle, puis on se fait une espèce de table ronde entre tout le monde. C'est très, très le fun. Et gênez-vous pas pour répondre à ma place quand vous avez quelque chose à dire. De retour après la pause, les appels.
Merci.
au réseau Cogeco. Vous écoutez Dan Pigra.
Or, je vous demande si vous êtes satisfait du plan pour le rattrapage scolaire du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Monsieur Mallette et moi, Monsieur Mallette est toujours en ligne d'ailleurs, il va répondre aux questions. Et on a été jusqu'à l'éducation secondaire 5 et université. Je ne voulais pas élargir le débat à toute l'éducation tout de suite. On pourra en faire 18 émissions. Mais c'était simplement, pour moi, c'était une illustration pour dire les enfants qui vont pas bien, qu'on repère pas maintenant, ils vont traiter ça, ils vont garder ça toute leur vie. Ça va être un traumatisme important toute leur vie, qui va affecter leur comportement et leur façon de vivre et leur bonheur toute leur vie. Donc, on va retrouver ça beaucoup plus loin dans la chaîne de la société. On a au bout de la ligne, on a Stéphano. Salut, Stéphano.
Bonjour, Dan, ça va bien?
Ouais, ben moi, ça va bien, oui.
Dan, j'ai écouté le point de presse hier et j'étais très déçu. Je suis un père d'un enfant sévèrement autiste. Il attend l'école Peter Hall à Montréal. Je pense que la population a oublié qu'il y a des écoles avec des enfants, des centaines d'enfants avec des handicaps sévères à modérés, physiques et intellectuels. Comment est-ce qu'un enfant qui est non-verbal, qui a besoin d'aide à s'habiller, aller aux toilettes, manger, avoir du 1 sur 1 en tout temps, comment est-ce qu'il va faire de la distanciation sociale, porter un masque, prendre les précautions hygiéniques nécessaires et... Des enfants autistes, comme mon fils, qui voit quelqu'un avec un masque et une visière, ils vont paniquer, ils vont essayer de leur enlever de la face. Il faut qu'ils soient capables de lire le visage de leur enseignant, de leur aide.
Oui, parce que c'est l'humanité qui sort du regard et de toutes les expressions faciales. C'est ça qui nous rend différents les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on voit, par exemple, la bonté et l'empathie chez quelqu'un ou la haine et la rage chez l'autre. Alors, pour un enfant qui ne parle pas, c'est la première identification qu'il y a. On peut pas mettre un masque devant ça, je comprends très, très, très bien.
Exact. Et on a-tu pensé des enfants comme ça qui, exemple, arrivent dans une classe, ils font de la fièvre, sont envoyés à la maison, sont obligés d'aller passer un test de COVID. Un enfant autiste qui va passer un test de COVID va carrément paniquer, il va être traumatisé, c'est pas faisable.
Ah oui. Déjà, moi, j'ai pas aimé ça. J'en ai passé un, puis à un moment donné, le deuxième qui te rentre dans le nez, là, je disais, vous trouvez l'omoplate, là? Je commençais à... Alors, ça peut être très paniquant pour un enfant qui comprend pas ce qui arrive absolument.
On parle de rattrapage scolaire à distance, on parle de classe Zoom, on parle de ci, de ça, pour des enfants typiques qui est correct, mais on a complètement oublié qu'il y a d'autres enfants qui ont besoin aussi de l'éducation puis de la stimulation.
Ils sont pas dans le programme. Il va falloir absolument interroger le ministre Roberge là-dessus puis qu'il apporte les correctifs. Merci beaucoup, Stéphano.
Merci à vous.
Merci. Pour en discuter, on reçoit Mélanie Marsolet, qui est directrice générale du regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage. Bonjour, Madame Marsolet.
Bonjour, M. Bigras.
Oui, vous allez bien?
Ça va très bien, merci. Et vous?
Ben moi ça va bien, mais c'est la détresse des enfants vient toujours me chercher, puis je comprends pas à un moment donné où est-ce qu'ils sont dans notre volonté politique. C'est ce qu'il y a de plus humain, s'occuper de nos enfants. C'est ce qu'il y a de plus humain. C'est ça qui distingue juste des voisins qui s'occupent pas des autres d'une société. Une société, c'est vivre avec les uns avec les autres, puis s'occuper de ceux qui en arrachent. C'est avec nos enfants en premier. Je comprends pas ce manque de volonté là. Parce que quand on en parle, si ministre Roberge avait créé des mesures là-dessus, je vous garantis qu'il l'aurait dit haut et fort, il aurait été très fier. Si on parle pas, c'est parce qu'il n'a rien prédit. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oui, bien pour moi, c'est ça que l'éducation, on dit les enfants, les jeunes, c'est ça qui prédétermine la qualité d'une société, hein, les valeurs, l'éducation, la compréhension de son monde, de son environnement. La capacité de se projeter pour un jeune, pour les aspirations, réaliser ses rêves, ses objectifs de vie, faire quelque chose, pour sentir un soin qui contribue, qui participe et tout.
L'éducation émotive, c'est sa société. Il doit discerner des gens qui ont envie de s'occuper de lui. Il doit sentir ça.
Mais c'est que l'éducation au Québec est vue... Il y a deux choses. Hein. Pour moi, l'éducation au Québec, c'est vu comme une dépense. Alors que ça devrait être vu comme un investissement essentiel pour vraiment amener la société, les jeunes, à former une société qui est éduquée, qui est instruite, qui est, qui est sensible aux autres alentours d'eux et d'elles, oui, parce qu'ils comprennent ce qui se passe. Fait que c'est pas tant une dépense, c'est un investissement. Dans la crise COVID, on l'a vu, là, il y avait une priorité sanitaire, une priorité sur la santé, c'est très correct. Mais au niveau de l'éducation, ça n'a pas été au rendez-vous, cette importance-là d'investir pour vraiment s'assurer qu'on poursuive ce travail-là de développement de, comme vous dites, de l'humanité, là, avec nos jeunes qui forment la société de demain. Fait que ça, c'est un investissement majeur et il faut vraiment que ça soit, comme vous dites, une volonté politique. L'autre chose, ben, l'éducation, ce n'est pas seulement, quand on parle d'humanité puis de société, ce n'est pas nécessairement en regard à l'emploi. Ce n'est pas seulement un objectif d'employabilité, l'éducation. Et tant qu'on voit l'éducation de cette façon-là, c'est extrêmement périlleux de prendre des décisions avec qui se basent sur des valeurs de solidarité puis de développement d'une société dans le bon sens.
Oui, c'est ce que je sous-entendait par éducation émotive. C'est la seule société de l'enfant. Sa première société, c'est ses parents. Après ça, c'est l'école. Plus tard, ça va s'élargir. Mais s'il comprend qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui, on n'en fera pas un enfant empathique envers les autres non plus, là. Monsieur Mallette?
Oui.
Ben, moi, tout à fait, j'écoute avec beaucoup d'attention Mme Marcellet. Puis je pense que la course à l'employabilité, on le dénonce depuis des années, hein. On pousse de plus en plus les élèves qu'on dit les moins performants vers des métiers ce qu'on appelle les métiers semi-spécialisés pour les sortir le plus rapidement possible du réseau scolaire parce que le système considère là, qu'ils vont coûter trop cher de toute façon puis on ne sera jamais capable de leur faire réaliser les mêmes réussites que les élèves plus performants ou qui sont supposément plus performants parce qu'ils réussissent moins mieux, ils ont moins de difficultés. Donc, on le voit, là, dès la deuxième secondaire, on pousse des élèves vers des métiers semi-spécialisés pour les amener à pas aller chercher le diplôme d'études secondaires à la cinquième secondaire parce qu'ils coûtent trop cher au système et ça, c'est inacceptable.
Ben je comprends et je vous rappelle le terme que vous constatiez, c'est-à-dire que nos enfants sont traités comme des clients. Sauf que moi, comme client, si je suis pas content d'un service, je vais sacrer mon camp pour parler avec quelqu'un d'autre. Les enfants ne peuvent pas faire ça. Ils ne sont pas des clients. Sont nos enfants. On va prendre une petite pause ici. Monsieur Mallette, je me permets de vous saluer. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Bien, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite à Mme Marcellet et à vous-même là, une belle journée et au plaisir de se reparler.
Au plaisir. Je vous rends votre travail. Mme Marcellet, restez avec moi. Je vais vous faire répondre aussi à des appels avec moi si vous voulez bien. On revient tout de suite après la pause.
Au réseau Cogeco, voici Dan Bigras.
Je vous rappelle qu'on est avec Mélanie Marcellet, qui est directrice générale du regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage. Êtes-vous satisfait du plan pour le rattrapage scolaire du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge? On s'aperçoit, Mme Marcellet, que c'est... On parle de décrochage scolaire comme une grosse menace, mais c'est parce que ça amène aussi un décrochage de la vie. Il me semble. Oui. Je ne veux pas faire mon grand philosophe, mais on se décourage de l'existence quand tout notre univers, l'univers scolaire, quand on est petit, quand on est ado, quand tout notre univers scolaire s'écroule, qu'on ne peut plus suivre, qu'on n'est pas suivi nous-mêmes et qu'il n'y a pas grand monde qui s'occupe de nous parce que personne n'a les ressources, est-ce qu'on risque pas de se décourager d'un peu tout?
Oui. Mais le décrochage scolaire, on le voit, hein, ça commence très, très jeune. Finalement, le décrochage scolaire, c'est l'acte, un peu l'acte ultime d'un jeune en dépit d'arriver à se réaliser à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de ce qu'on lui propose. C'est comme un lâcher-prise nécessaire qui est souvent même salutaire dans bien des cas, malheureusement, parce que le jeune, à force d'essayer, de cumuler des échecs, d'avoir des regards aussi qui ne sont pas toujours bienveillants, qui sont pas toujours avec... C'est un espace aussi quand même l'école qui est assez... qui est un espace stressant, qui a beaucoup de facteurs de stress, qui a du jugement par les pairs, par les enseignants, les enseignantes. Mais les jeunes, on l'oublie souvent quand ils décrochent, c'est que c'est une décision très douloureuse, mais qui cache beaucoup d'années de douleur derrière.
Voilà.
On le voit, là, un jeune... Il faut se rappeler, là, tout le monde, tous les parents et nous-mêmes, on... Oui.
Oh, excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais par exemple, au refuge, nous autres, on voit beaucoup, et puis tous les organismes voient la même chose, c'est des jeunes, leur première question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que personne m'aime? Et puis la raison, ouais, leur revient tout de suite, c'est parce que je ne le mérite pas. Entendez-vous la cruauté qu'il y a là-dedans? Entendez-vous, oui, l'estime de soi qui est partie à ce moment-là? Comment on peut demander des efforts à ces jeunes-là de s'en sortir? Ils trouvent qu'ils n'en valent même pas la peine. Leur vie ne vaut pas autant que les autres et c'est là que ça mène.
Oui, oui, c'est très difficile. Il faut se rappeler que tous les enfants, là, quand ils rentrent à l'école, vous en souviendrez, puis quand les enfants ont habituellement hâte d'aller à l'école, de rentrer dans la, oui, grande école. On a un public là vraiment magnifique avec une curiosité plus grande ou moins grande, mais dans tous les cas, on a des enfants qui demandent qu'à s'épanouir. C'est quand même dommage de voir pour toutes les difficultés, ça repose pas simplement qu'à l'école. On le sait, là, il y a vraiment des milieux familiaux extrêmement difficiles, puis qui manquent énormément d'amour et tout ça pour ces enfants-là. Mais quand même, ça serait intéressant de voir aussi que l'école puisse jouer un rôle accru sur le développement, la consolidation de l'estime de soi de ces jeunes-là, de leur confiance en soi, parce que les jeunes, ils passent énormément d'heures à l'école dans une journée. Et ça, oui, a toute son importance.
C'est leur univers.
Oui, tout à fait.
Ben, merci beaucoup. Restez avec nous. Moi, je vous renvoie pas tout de suite. Si je peux vous garder jusqu'à la fin, j'aimerais beaucoup. On va recevoir tout de suite Marois Risky, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation pour le Parti libéral du Québec. Bonjour, Mme Risky.
Bonjour.
Alors, vous allez bien?
Moi, je vais très bien. Merci. Et vous?
Ah, ben, très, très, très bien. On a eu un échange assez comique avec Jean-Luc Mongrain. On broyait de rire un peu. Parce que j'ai dit, Jean-Luc, tu vas interviewer Mme Risky. Je sais que tu es pointu. Quand tu pognes une coupe de politiciens, des fois, tu peux être raide un peu. Je dis, fais attention à votre sacré de volée.
Oh non, j'aime beaucoup M. Mongrain.
Oui, oui, il est adorable. Mais à vous trouver une seconde pour boxer ou vous n'avez pas le temps?
Pas du tout, en fait, zéro. J'ai même pas eu le temps d'aller courir, là. Donc, ça va, ouais, pas très bien côté sur le plan physique, mais c'est pas grave.
Ben, on se reprendra plus tard. On se reprendra plus tard. Alors, l'important, là, aujourd'hui, c'est l'annonce du ministre Roberge. Moi, je me trouve malchanceux. J'ouvre la TV, le ministre est jamais là en train d'annoncer qu'il va s'occuper des élèves en difficulté. C'est-tu moi qui hallucine, là?
Non, ça, c'est la réalité où est-ce que nous-mêmes, on est confrontés avec le ministre Roberge. Dans un premier temps, moi, je vais vous dire, là, j'étais juste satisfaite qu'enfin, il réalise que même son plan au niveau de protection sanitaire n'était pas au rendez-vous le 16 juin dernier puis que ça méritait là, d'être revu et corrigé. Alors ça, au moins, c'est une bonne nouvelle, complètement revu et corrigé. Il a carrément mis aux poubelles son ancien plan, puis est arrivé avec la santé publique, avec un commencement de plan. Est-ce que ça reste des places au-dessus?
Tout reste à développer, puis là-dessus, oui, je prétends pas que je pourrais faire mieux. Là, on va regarder comment ça se passe, puis on va suivre.
Mais l'autre abcès, l'autre affaire là, qui est pour nous prioritaire, et depuis...
Vous avez dit abcès, c'est un beau lapsus.
Oui, l'abcès. Mais c'est que faut se rappeler que le 16 juin, il a déposé un plan, et nous, on lui a dit, OK, mais au niveau des retards pédagogiques, c'est quoi le plan? Allez-vous ajouter des ressources additionnelles au niveau psychologique? Est-ce que vous allez ajouter des orthopédagogues, des orthophonistes? Tout ça, là, les enseignants ne pourront pas tout faire. Et il faut arrêter de juste croire que les directions d'école et les enseignants, lorsqu'on va leur pelleter le problème dans leur cours, vont être capables de tout régler. La pandémie, là, c'est une période anxiogène pour tout le monde, mais même pour les enfants. Et après les aînés, ben moi, je vous le dis, c'est eux qui ont écopé le plus. Pas d'école, pas d'amis, pas de sport, confinés à la maison avec leurs parents. Alors oui, je pense que des jeunes qui ont très hâte de retourner à l'école, mais ne savent pas quelle école ils vont retourner. Et il y en a qui ont accumulé des retards et je me suis entretenue avec beaucoup d'experts. Et tout le monde on crée ce qu'on appelle là, la génération COVID, c'est-à-dire des décrochants qui malheureusement, à 15 ans, 16 ans, pendant la pandémie, ont trouvé un emploi et que à l'automne, ils ne reviendront pas sur les bancs d'école. Et quand j'entends le ministre dire « ben c'est ça le plan » et je vous reviens encore plus tard pour les détails pour le rattrapage scolaire, c'est qu'il y a eu des mois pour y penser. Là. Et ça commence à terminer.
Puis ensuite, c'est pas un détail, comme il dit.
Exact.
C'est la base de notre éducation. Est-ce qu'on laisse tomber nos enfants? Et je demande à n'importe qui au Québec en ce moment, si vous avez un enfant en difficulté, est-ce que vous acceptez ça, ce plan-là? Ça fait aucun sens. Je m'inquiète, moi, pas juste pour les enfants. Évidemment, c'est ma priorité, mais je m'inquiète pour toute l'espèce de on parlait tantôt de jeter une pierre dans l'eau, là, puis le rond s'agrandit. Alors, un, il y a l'angoisse de compassion chez les professeurs qui ne peuvent pas consacrer une seule seconde à leurs élèves qui sont en difficulté. Puis on parle de difficultés émotives aussi. Ils voient les enfants qui vont mal, sont direct devant lui. Donc, ils souffrent d'angoisse, de compassion, puis à un moment donné, ils ne peuvent plus. Alors, quand les ministres disent, ben on va rappeler nos profs à la retraite, puis cette année qui ne veulent pas revenir, c'est un peu ça. Et il y a aussi les familles des enfants vulnérables. Ils sont souvent vulnérables, eux aussi.
Absolument. Et ils n'ont pas plus d'outils aujourd'hui. Et tantôt, vous parliez d'anciens jeux de la boxe, mais on s'est rencontrés où? Ben avec les 12 rondes de l'espoir, avec oui. Ali, les princes et princesses de la rue. Mais c'est quoi cet organisme? Mais ça aide des jeunes qui ont vraiment décroché, qui sont retournés à l'école, ils ont redécroché, ils sont retournés à l'école, ils ont redécroché. Et moi, j'y vais quand même à quelques reprises à cet endroit. C'est fabuleux. Oui, le premier étage, c'est consacré à la boxe, mais si vous montez les marches, ben en haut, il y a des classes. Oui, il y a des éducateurs qui donnent encore des cours et on amène ces jeunes à graduer. Mais avant de faire tout ça, là, on travaille d'abord et avant tout l'estime de soi qui malheureusement a été perdue au passage quelque part dans la vie. Et quand on voit là, le travail qui est fait auprès d'eux, c'est pas dans les murs traditionnels de l'école, c'est à l'extérieur de l'école. Et ces endroits-là sont vraiment le dernier espoir. Et il va falloir qu'on réfléchisse de façon beaucoup plus large pour trouver des solutions. Et on peut pas simplement penser que c'est l'école traditionnelle qui va être capable de lutter contre le décrochage. Au contraire, il y a des organismes qui...
Donc, il va falloir... Oui, mais les organismes sont petits, ils peuvent pas pallier à tout. Et quand le système d'éducation sous-entend à un enfant « j'ai pas le temps pour toi », ben l'enfant lui-même n'aura pas de temps pour lui-même parce qu'il trouve que c'est ça qui mérite, son estime de soi tombe. Si on s'en occupe pas, c'est l'âge précieux, c'est l'âge sensible où il apprend la société, mais il l'apprend s'il est en difficulté dans un endroit qui ne s'occupera pas de lui. C'est ça le dégât.
Oui, et si on s'en occupe pas maintenant, ça va nous coûter beaucoup plus cher plus tard.
Bien
parce
sûr.
Que le dégât va être vraiment important. Et là, tous les risques se multiplient. Et c'est là l'importance de dire, ben, cet enfant, il n'est pas secondaire, il est élémentaire. Il fait partie, comme tous les autres enfants, de notre projet de société. Puis on veut l'amener à travailler sur lui, oui, avoir une estime de soi, puis par la suite à graduer. Mais si aujourd'hui le ministre de l'Éducation pense qu'on peut pelleter par en avant le rattrapage scolaire, moi, je pense qu'il se trompe. C'est maintenant qu'on doit immédiatement débloquer des sommes.
Non,
parler avec tout l'ensemble des organismes sociaux communautaires qui, eux, sont sur la première ligne pour
défendre. Quand on pèle par en avant, on fait juste grimper le mur de difficultés. On n'a pas eu le temps de l'absorber. La souffleuse n'est pas passée, là. C'est comme tu poses de la neige, Le banc de neige va être de plus en plus gros. Puis à un moment donné, le banc de neige fait 75 étages. Puis c'est l'enfant qui est devant. Mon ami Ali, l'organisme dont vous parlez, lui, l'idée lui est venue au départ, c'est parce qu'il y avait beaucoup de jeunes en difficulté qui se ramassaient chez lui. Au départ, c'était un dojo d'arts martiaux, de combat, mais il voyait ce besoin grandissant-là. Admettons un élève qui s'est battu à l'école, il fout dehors pour 2 semaines, va-t'en chez tes parents, il s'en va chez ses parents. Les parents sont pas là, évidemment, ils travaillent. Il va dans un parc. Qu'est-ce qu'il y a dans un parc? Les gangs de rue. Il recrute les gangs de rue. Le premier gang de rue qu'on connaissait à Montréal s'appelait Family. Il faut pas se demander comment ils recrutent. C'est en redonnant ce que les jeunes n'ont pas pu avoir ailleurs. Et il a dit, envoyez-moi-les. On va leur replacer les chakras. Ils vont pouvoir avoir du fun. Ils veulent se défouler, ils vont se défouler ici. Mais moi, je vais avoir des professeurs parce que si dans 2 semaines, il retourne chez vous puis il n'a pas suivi sa matière, il va être complètement désorienté. Puis je m'excuse en bon français, la marde va repogner. Alors ça, c'est un cycle sans fin. Et on est responsable de ce cycle-là quand on ne donne pas, on ne finance pas tous ceux qui s'occupent de nos enfants en difficulté. Alors soit les organismes ou soit les plus d'orthopédagogues, de psy, de gens qui sont sur le terrain.
Oui, mais des travailleurs de rue sont présents. Ils les voient dans les parcs. Je parlais avec ma collègue Paul Robitaille, qui est la députée de Montréal-Nord. Et elle, avec les organismes sociaux communautaires, ils ont vraiment une crainte là, très, très légitime de dire, OK, là, c'est parce qu'il y en a là, qu'ils vont être dans les parcs là, à la rentrée scolaire. Ils ne seront pas nécessairement à l'école, particulièrement les élèves de secondaire 4 et 5, parce que dans leur cas, eux, le ministre a prévu un rentrée à l'école partielle. Mais l'autre moitié du temps, comment on va s'assurer que ces jeunes-là ne seront pas en train de traîner et ne seront pas une proie facile aux gangs de rue? Et c'est là que j'ai besoin d'avoir un ministre qui réalise que des fois, là, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Puis oui, de s'assurer qu'on met des garde-fous puis qu'on ait les bonnes ressources aux bons endroits pour pas avoir de laissés-pour-compte. Et même moi...
Je suis d'accord, Mme Reski, mais on a tous une crainte énorme. Mais là, vous voyez, déjà, on s'est même pas rendu compte, Mme Reski, mais vous et moi, on s'est déplacés vers le niveau du mi-secondaire, fin secondaire, où les jeunes sont en détresse. Et on a oublié les mesures du ministre Roberge pour nos enfants maintenant, qui rentrent au primaire, secondaire. C'est là que ça commence. Ce sont des chocs émotifs que de rentrer dans un... C'est la pire terreur d'un enfant de rentrer dans un énorme immeuble où personne s'occupe de lui.
Oui, puis si vous permettez, est-ce que je peux vous faire réfléchir à quelque chose?
Ben, j'aimerais beaucoup.
Mais moi, durant la pandémie, j'ai même revu ma façon de travailler, Et je trouvais que, oui, c'est vrai que l'année 2020 nous a donné plein de mots à du citron. Et je me suis dit, mais pourquoi pour de vrai, on a des gros défis en éducation, on manque d'espace. Puis je voyais que les musées étaient fermés, les centres sportifs étaient fermés. Et je me suis dit, si pour de vrai, on se permettait de rêver à une école qui n'était pas l'école traditionnelle, pourquoi qu'on manque aussi d'enseignants? Est-ce qu'on est capable de déplacer des élèves ailleurs que dans l'école fermée, dans les quatre murs? Puis on sait qu'il y a des écoles qui ont été construites là, dans les 70, qui ressemblent malheureusement à des bunkers et qui sont dans les murs les plus défavorisés alors qu'ils devraient avoir les plus belles écoles.
Il y a un paquet de ces écoles-là qui sont infestées de champignons. C'est très dangereux pour la santé.
Oui. Pourquoi qu'on ne dit pas, mais parfait, on a le Musée des Beaux-Arts, on a le Centre des sciences, on a d'autres endroits très, très beaux et qui sont vides présentement. On a le milieu culturel qui a été vraiment affecté. Est-ce qu'on peut apprendre le français à travers une pièce de théâtre dans une salle de théâtre? Est-ce qu'on peut apprendre le français en chantant dans une salle de spectacle ou, par exemple, dans un spectacle d'humour? Est-ce qu'on peut vraiment revoir une façon d'enseigner pendant cette période de pandémie et essayer de faire une belle limonade, malgré que c'est compliqué des fois?
Moi, je suis évidemment entièrement vendu à votre idée. Mon bassiste, là, on ne travaille pas en ce moment. Bien, lui, même quand on est en show, il donne un cours d'éveil musical à des enfants de 3-4 ans qui ont un fun de fou. Et déjà, ça les forme à... Je trouve la première chose à enseigner, c'est que l'école, c'est pas plate. Et donc, lui, il enseigne que l'école, c'est très, très le fun. On peut beaucoup jouer, apprendre des choses qu'on ne savait pas. On rentre à la maison, on compte ces affaires-là. Il y a une aventure qui se passe. Alors, moi, c'est évident que ça fait des années que je rêve d'une école où on miserait sur les forces de certains élèves au lieu de leur donner une espèce d'enseignement uniforme. Mais pour ça, il faudrait passer plusieurs étapes. C'est comme le quatrième étage. On n'arrive pas à passer le premier, c'est-à-dire à s'occuper normalement juste de nos enfants en difficulté. Après ça, ben c'est les autres étages se montrent, mais rendu là, on est au quatrième, là.
Oui, mais peut-être que l'enfant en difficulté pour en avoir croisé beaucoup. Le fait d'être dans un espace totalement différent, peut-être que cet espace lui permet de voyager puis d'oublier les problèmes à la maison. Le temps d'une chanson, le temps d'une pièce de théâtre.
Je suis entièrement d'accord.
Le temps de partir à l'aventure.
Vous savez, on fait beaucoup moins de shows, on en fait à peu près pas. Moi, aller dans les écoles, ça me plairait beaucoup. Avoir du fun avec les enfants, puis montrer des choses, puis montrer que ça peut être le fun, ça me plairait beaucoup. Je suis certain qu'il y a plein d'artistes, ça intéresserait. Madame Marcellet.
Les professeurs en musique qui en ce moment attendent de renouveler leur contrat, là, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans, c'est tous des emplois précaires. Moi, je ne crois pas à une école qui n'a pas de musique. Au contraire, ça nous en prend.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Vous n'aurez pas travaillé fort pour me convaincre. Je vais juste remercier Mme Marcellet. J'ai pas eu le temps de vous faire intervenir dans le dernier bloc. Je suis désolé, ça va vite. Merci beaucoup, Mme Marcellet. Passez une très belle journée. Puis merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci bien à vous. Au revoir.
Au revoir. C'est Mélanie Marcellet qui est directrice générale du regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage. Et là, j'étais en train de discuter avec Marois Riski, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, avec qui, je répète, je ne boxerai pas, elle est folle sur un ring. Mais on va parler d'éducation souvent, Mme Riski. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir.
Passez une belle journée. On revient. Après la pause, justement, on va parler avec Jean-Luc Mongrain, je vais en parler tantôt. On va faire ses petits plans pour l'après-midi. À tantôt.
Témoignages, échanges, discussions. Jusqu'à midi, vous écoutez Dan Bigras.
Alors, mon cher Jean-Luc Mongrain, je viens de parler avec Marois Risky,
oui,
qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Et comme tu le sais, elle boxe. Je t'avais même dit qu'elle va... Tu sais, parce que tu cuisines les politiciens, toi, t'es lâche pas, tu sais. Fait que je dis, fais attention à votre sacré de volée. Et je lui ai parlé tantôt, puis je lui ai raconté l'histoire, puis elle m'a dit, mais non, M. Mongrain, je l'adore. Alors, j'ai une question pour toi, Jean-Luc.
Oui.
Est-ce qu'avec l'âge, on s'est ramolli un peu?
De quoi tu parles?
Ah, oh, c'est pas vrai. Mais c'est...
Non, je ne pense pas. Mais, tu sais... Être direct, être dans le métier, là, poser la question, pousser les gens à leurs limites, c'est parce que je les respecte beaucoup. Je les respecte beaucoup, moi, les politiciens, parce qu'ils ont une grande responsabilité à laquelle ils doivent faire face, c'est celle de servir.
Oui.
Mais parce qu'ils servent, ils ne font pas se servir. Et oui. Donc, ils doivent rendre des comptes. Et moi, je pense qu'on a le droit d'aller jusque-là. Ça demeure poli, mais ça peut balancer un peu. Mais c'est jamais personnel. J'en veux pas aux individus, jamais, moi.
Non, c'est vraiment le sujet de société. Parce que c'est la démocratie est faite comme ça. Des fois, on a l'impression qu'on a le droit aux 4 ans de changer de boss, puis c'est tout. Ce qui fait la différence, c'est le journalisme, c'est la chronique, c'est les médias, c'est tout ça.
C'est le quotidien de ça. C'est la démocratie, c'est ce jeu de... fragile équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs.
Oui, on va pas là.
On vit ça présentement.
Oui.
Alors, c'est ça la démocratie. C'est peut-être pas le système parfait, mais c'est le système qui permet à des gens de dire « moi, j'en bac pas, moi, je signe pas, moi, je fais pas ça ».
Churchill, il disait que c'était le moins pire des systèmes.
C'est ça.
Je trouve ça pas mal,
moi. C'est le système, par exemple, qui permet à ces gens-là de signer des pétitions, parce que s'ils signaient ça ailleurs et en d'autres moments, ils signeraient leur arrêt de mort et ou leur emprisonnement pour un bout de temps.
Oui.
C'est ça, la démocratie.
Ben écoute, c'est celle-là qu'on a. On vit avec ça, puis on fait notre job au travers. Nous autres, alors, de quoi tu nous parles cet après-midi,
mon Jean-Luc? Écoute, d'abord, quelques réactions, évidemment, au plan de Roberge, qui semble avoir été bien accueilli, où il y a une zone floue pour certains, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont un cheminement particulier, qui ont accumulé un retard. Il dit qu'il va arriver avec des solutions un peu plus tard là-dessus. Je veux parler également de la question du Liban. Je viens de contacter, et on va contacter, l'ex-ambassadeur du Canada au Liban, qui est un monsieur Delorimier, qui a été là de 2005 à 2008. Il a participé, lui, au rapatriement des ressortissants canadiens et libanais quand il y a eu cette révolution-là et des problèmes là-bas. Alors, je parle avec lui de ça. Puis, ensuite de ça, je veux parler d'une grande tristesse, cette affaire d'enfant qui a été retrouvée dans une poubelle parce que les parents font face à des accusations.
Et ça nous atteint. Ça,
25 semaines d'existence, fœtus ou bébé à naître, avec ou bébé
des,
né.
Avec des signes de maltraitance.
C'est ça. Alors, je veux parler de ça, mais je ne veux pas parler de ce couple-là. Je veux parler de la détresse de certaines personnes face à la maternité ou de se voir avec la responsabilité de mettre un enfant au monde. Tu sais, à un moment donné, il y a eu des crèches chez nous. Est-ce qu'il y en a encore? C'est quoi les services à une jeune femme qui est devant cette situation-là? Un jeune couple de jeunes, j'allais dire, enfants. Ces gens-là étaient loin d'être des enfants, là, des irresponsables. On parle de 36 et de 40 ans, là. Mais... qui vivent
des
la
fois,
détresse.
C'est des gens quand même très démunis.
Absolument.
Et des fois, tu vois l'enfant, tu as dit, si je pogne le père, je vais y arracher la tête. Puis tu rencontres le père, puis il est encore plus démuni que son fils, mais maintenant son fils est mort. C'est très, très, très...
Ah non, c'est tout à
c'est
fait
difficile, c'est ces choses-là. J'ai une question pour toi concernant, tu me parlais du Liban.
Oui.
Le Canada va envoyer 25 millions.
Oui.
À quel gouvernement?
À pas au gouvernement, à des ONG, à des organismes qui, sur place, ont la garantie d'eux pour pas que ceux qui sont là, à qui on reproche la corruption, s'en mettent dans les poches.
Oui, ils se font débarquer, c'est pas pour rien.
C'est pas pour rien. Mais c'est loin d'être réglé. Hein. C'est un panier de crabes que ce pays, qui est malheureusement un extraordinaire pays en voie de perdition. C'est triste. C'est vraiment triste.
Ça va prendre beaucoup de travail.
Oui, absolument. Et c'est pas pour demain la veille.
puis même à l'intérieur de ça, il y a des tensions. Alors, on se demande comment ça va se terminer.
Merci beaucoup, mon Jean-Luc. Passe un superbe après-midi.
Merci,
nous autres, on s'en va aux nouvelles. Ça prend les nouvelles, hein. Faut avoir de quoi parler. Et on revient tout de suite après. Prenez soin de vous autres.